Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez en anime, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Monsieur le docteur Jacques Jean, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai la très 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 grande joie aujourd'hui de rencontrer une amie de longue date avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a toujours fait confiance, ce qui est très important. Nous avons même passé des examens ensemble. Et oui, cette grande et généreuse amie, c'est le docteur Georgette Drossin. Bonjour à toi Georgette et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jacques, c'est vrai que nous avons un lourd passé ensemble.
Un lourd passé, oui. Et oui, nous connaissons depuis longtemps, nous nous croisions à l'hôpital Ruoche fin 1987 et 1988, puis nous avons commencé à nous côtoyer régulièrement au tout début de la consultation de la douleur, comme on l'appelait alors, créée dans le service d'acupuncture du professeur Jean Bossy. J'étais à l'époque interne en psychiatrie chez Gérard Renfourcq et ce dernier m'avait demandé de représenter son service au sein de la consultation de la douleur chez Bossy, comme on disait à l'époque, consultation qui se voulait pluridisciplinaire. Toi, Georgette, tu étais là pour le service d'anesthésie-réanimation que tu dirigeais alors, que dirigeait alors le professeur Françoise Dattis, qui, pour la petite histoire, était membre de mon jury de thèse. Comment cette aventure a-t-elle commencé pour toi, qui es à la fois algologue et anesthésiste? Parce que Georgette est anesthésiste, c'est-à-dire qu'elle vous endort avant que vous soyez opéré. Et puis, elle est algologue, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste de la douleur chronique.
Bon, à l'époque, je n'étais qu'anesthésiste réanimateur au CHU, c'est-à-dire à la Ruoche. J'avais fait une formation d'acupuncteur tranquillou minou, mais c'est dans ce cadre-là que Madame Dattis, suggérée par le professeur Roquefeuille et Jean-Jacques Elidjian,
Il faut dire que le professeur Roquefeuille était un anesthésiste patron à Montpellier qui avait créé un certificat d'algologie, qui s'intéressait à l'algologie depuis le début, enfin depuis le début, hein, et que Jean-Jacques Alléja
faisait partie d'anesthésie à
Montpellier.
Voilà, donc ils avaient suggéré à Madame Dattis de créer une consultation de la douleur. Donc elle était venue me voir, entre guillemets, parce que j'avais fait l'acupuncture, que dans sa tête, l'acupuncture, c'était essentiellement pour la douleur. Bon, je pense qu'elle a changé d'avis depuis, mais voilà. Donc, je me suis intéressée de loin au départ à cela, mais je suis allée dans plusieurs centres, voir les premiers centres pionniers en France, notamment à Grenoble, vers Rouen, pour voir... comment ça se passait?
Alors là, nous parlons des années 1988. Alors, je sais exactement la date, oui. Parce que un repère, c'est ma thèse. Donc, c'était les tout premières consultations de la douleur. Donc, pour vous dire, à Nîmes, c'est Jean Bossy qui l'avait fait, donc qui était le patron du service d'acupuncture, dont nous sommes diplômés, Georgette et moi, nous sommes tous les deux acupuncteurs. Et il avait demandé à tout le monde pour fédérer. Alors, c'est ma deuxième question. Sais-tu comment Jean Bossy, cette époque, a créé dans son service, la première consultation de la douleur à Nîmes. Parce que vous imaginez bien que dans un hôpital CHU de l'époque, comme le CHU actuel, ben, il y a les chefs de service, les sous-chefs de service, etc. Les relations sont... On en fait des films, alors vous imaginez, dans la réalité. Hein. Donc, mais quand même, le professeur Bossy avait réuni à fédérer beaucoup de services. C'est pour ça que la psychiatrie, dont j'étais interne, était invitée, que Gérard Renfourcq, on a dit, écoute, eh ben, puisque ça t'intéresse, tu y seras. Alors comment Jean Bossy a pu...
Alors, je ne sais pas dans les détails.
Est-ce qu'il est venu vous voir en anesthésie?
Non, je pense qu'il a vu les différents chefs d'unité et qu'à partir de là, on a cherché des gens qui seraient intéressés. Et lui, il avait un service où il pouvait accueillir une consultation. Donc, passé au départ chez lui.
Alors, pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, Ruoche, il y avait un service. Donc, le professeur Jean Bossy était anatomiste. Hein, il était professeur
neuro-anatomiste.
Il était professeur à titre personnel à la faculté de Montpellier. Donc, il était chef de laboratoire de sciences fondamentales d'anatomie. Hein, et sa spécialité, c'est neuro-anatomie. Je passais avec un certificat d'études supérieures en neuro-anatomie. C'est pour ça que l'acupuncture, il a intéressé. Sa vision, c'était que l'acupuncture avait un un support neuroanatomique. Il avait émis des hypothèses anatomiques, il les avait démontrées.
Ça a été l'un des premiers acupuncteurs
scientifiques
qui a lancé.
Et donc, il avait créé un service d'acupuncture au sein du CHU Rioche, donc qui est complètement détruit maintenant. Les locaux de la consultation existent toujours parce que c'était dans le cloître. Bon, donc ça existe toujours. Enfin, le CHU étant détruit. Et là, il y avait un service d'acupuncture. On faisait des stages et on a pratiqué. Il avait un créneau et il a créé cette consultation de la douleur parce qu'il était venu à l'acupuncture par la douleur, même puisqu'il était neuroanatomie, la douleur quand même, neuroanatomie, c'est important, et l'acupuncture était venue, donc il était brillant, il avait même fait l'histoire de la médecine, etc. Donc, à cette époque, il avait rassemblé tout le monde, mais il y a un petit groupe qui est resté. Alors, tu me dis si j'en oublie. Donc, il y avait M. Bossy, il y avait toi qui était anesthésiste, parce que tu fallait avoir la vie d'anesthésie. Il y avait le service de rééducation avec Mme Lopez, début.
Lopez, puis M. Boisson.
Voilà,
Monsieur
et puis après Boisson. Michel Boisson. Et puis, il y avait un psychiatre avec le Dr Bourguignon. Il y avait un acupuncteur.
Il y a eu Vutriche aussi.
Il y a eu Vutriche au début. Et puis Vutriche, il a laissé à la place à Bourguignon, au docteur Bourguignon. Il y avait le docteur Ayache qui était acupuncteur montpelliérain, mais qui travaillait comme attaché en acupuncture. Et puis accessoirement, il y avait moi. Alors pourquoi j'étais là? Parce que j'avais préparé ma thèse en hypnose, je faisais la sophrologie, et la sophrologie était importante. Gérard Fuchs m'a dit, vas-y, tu représenteras le service. Et peu à peu, j'ai pris ma place en sophrologie et j'ai demandé à M. Bossy de créer une consultation de sophrologie en rapport avec l'algologie. Il m'a eu de l'autorisation et c'est pour ça que la sophrologie rentre à l'hôpital. La sophrologie rentre à l'hôpital puisque le mardi, on avait la consultation pluridisciplinaire et je crois que c'est le mercredi, j'avais mes consultations de sophrologie pour les gens douloureux. On les accompagnait comme ça et on m'appelait même dans les services puisque... Tu allais, toi, dans les services, et là où j'ai vu les CDN avec zéro lymphocyte, 42 de fièvre, que j'accompagnais en sophrologie. Donc, c'était un peu l'embryon.
Oui.
Tu es d'accord avec moi, l'équipe était comme ça.
Je te rappelle qu'au tout début, la consultation était une fois par mois.
Tous les mardis, c'était une fois par mois. Puis après, c'est venu plus, ça s'est développé, etc. Et puis après, il y a eu une histoire jusqu'au centre de la douleur.
À ce moment-là, on était tous ensemble face aux malades. Donc, c'était vraiment pluridisciplinaire, ce qui était conseillé dans presque tous les centres, parce que la douleur, on découvrait.
Voilà,
la spécialité, notamment de la douleur chronique, c'était quelque chose qui se découvrait.
Voilà, on commençait dans les années 88 donc, à créer des centres antidouleurs et donc, on disait que c'était pluridisciplinaire, mais au sens vrai. C'est-à-dire que le patient avait six médecins de spécialité.
Plusieurs médecins.
En face de lui, et chaque médecin donnait son avis ou lui posait des questions. Puis après, on se rassemblait. Donc, on voyait trois personnes par après-midi, parce que d'abord, c'était des cas difficiles. Puis après, il fallait se faire. Alors qu'actuellement, bien souvent, on est revenu à des consultations qu'avec un médecin ou qu'avec un psychologue. Exceptionnellement deux, bien souvent on fait un médecin et un psychologue ou un autre médecin d'une spécialité.
Ou une infirmière,
voilà. Et puis comme une éducation thérapeutique.
Alors, voudrais quand même rappeler que le corps infirmier est certainement celui qui a poussé les médecins à s'intéresser à la douleur dans tous les services.
Comme beaucoup de choses, beaucoup de spécialités, pour approfondir une spécialité, ce sont les infirmières et les aides-soignantes qui sont beaucoup plus proches des patients que le médecin. Vous savez, le médecin, il vient, il prescrit, et puis les infirmières vivent avec, moi j'étais infirmier, vivent avec le patient, donc ils sont au cœur du problème et demandent au médecin, il faudrait travailler dans ce sens.
Et on poussait les médecins à travailler dans ce sens-là. Et donc, à l'époque, en Amérique, il y avait plus de 25 ans que ça s'était développé. Donc, on a rapporté des exemples de travail, etc. Mais en France, ça date des années 80-90.
Oui, nous, on a commencé en 88, mais ça faisait 5 ans, en fait, que ça existait.
Et Roquefeuille avait commencé.
Voilà, alors, monsieur Roquefeuille, alors je crois qu'il faut en parler de Bernard Roquefeuille, qui a été un grand monsieur, puisqu'en 1979, le professeur Bernard Roquefeuille avait déjà créé un centre antidouleur à l'hôpital Sainte-Étoile à Montpellier, hein, donc c'est-à-dire presque 8 ans avant Nîmes, hein, prenant ainsi en compte aussi bien les souffrances physiques et psychiques des patients. À l'avant-garde, il a fait entrer au sein de son centre des disciplines comme l'algologie, qui n'existait pas, hein, et la sophrologie, hein, puisqu'il y avait Eliane Ferragut.
Le docteur Eliane Ferragut, qui était une ancienne anesthésiste, mais qui a fait psychiatre.
Elle a été anesthésiste, elle était algologue, elle a été psychiatre. Hein.
Voilà.
Rappelons aussi ici qu'il a créé le premier certificat d'enseignement à la faculté de Montpellier sur cette thématique, dont nous étions diplômés tous les deux à l'époque, qui sont aujourd'hui prolongés par l'hydrologie, enfin les spécialités, l'hydrologie, l'art-thérapie, la relaxation, une technique proposée dans un objectif d'apaisement, d'expression et d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique en algologie est très importante aussi pour prendre en charge la douleur. Alors, tu as connu Bernard Roquefeuille, est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Alors, je vais te contredire, mais j'ai peu connu Bernard Roquefeuille, puisque moi j'ai fait...
Tu étais nîmoise et lui était montpelliérain.
Voilà, j'ai fait toutes mes études d'anesthésie-réanimation à Nîmes, même si j'allais à Montpellier pour des cours, mais je l'ai rencontré essentiellement au début où je me suis intéressée à la douleur, puisque je suis allée assister à des consultations... et qu'il y avait Bernard Roquefeuille.
Voilà, mais c'est-à-dire que tu as été te former, comme on le faisait à l'époque, comme plus maintenant, dans un centre qui existait, c'est-à-dire...
Dans des centres,
et notamment à Montpellier, avec Bernard Roquefeuille. Moi, je peux vous donner une petite anecdote. J'étais NTM à la fois militaire, j'avais été le voir pour, je ne sais plus, je lui avais parlé, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, je lui ai parlé de mon projet, de l'algologie en libéral, etc., etc. Il m'a dit, mais c'est très, très, très bien, il m'avait beaucoup encouragé. Il m'a dit que c'est très bien, j'étais toujours resté en rapport... un rapport avec lui. D'ailleurs, il m'a parrainé pour entrer à l'International Association for Studies of Pain parce qu'il fallait avoir deux parrains. Et c'est M. Roquefeuille qui m'avait parrainé pour entrer à l'association internationale. Voilà, c'est une... Donc, dans la région, l'algologie, la prise en charge de la douleur, c'était Bernard Roquefeuille à Montpellier, mais qui a fait des émules, et c'est vrai que Jean Bossy... en tant qu'acupuncteur, en tant que neuroanatomiste, a pris les choses en main, a fait la consultation de la douleur dans son service, qui a duré quand même pas mal de temps.
Oui, le service de la douleur qui a été rattaché au département d'anesthésie date lui-même de 97.
Voilà. Entre-temps, alors, donc, en premier lieu, c'était M. Bossy, etc. Puis ça va être la deuxième partie de notre émission, c'est-à-dire que cette consultation de la douleur qui était chez les acupuncteurs va passer chez les anesthésistes, et c'est là qu'on en parlera dans notre deuxième partie d'émission. Mais en attendant, je vous propose une trêve musicale avec Mahler et sa symphonie numéro 6. Nous écouterons uniquement le début. Thank you. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Georgette Drossin afin d'évoquer les débuts du centre anti-douleur au CHU de Nîmes. Donc Georgette est une amie de longue date puisque nous avons commencé, enfin moi j'ai commencé à travailler avec elle, travailler avec, bien évidemment bien avant moi. Alors, tu es par la suite devenue la patronne, alors elle ne veut pas que je dise ça, mais on disait la patronne du centre antidouleur de Nîmes, mais cela sera le sujet d'une autre émission peut-être, hein, j'envisage. Au début de la consultation chez Bossy, quelle était ta place? Donc on l'a dit, tu étais anesthésiste. Et puis alors, explique-nous comment c'est passé, comment la consultation de la douleur a passé de l'acupuncture au service d'anesthésie.
Alors, là, je pense qu'il y a un problème d'influence, etc. Je ne sais pas vraiment comment les choses se sont décidées. Mais bon, au début, moi, j'y étais dans le cadre de... en tant qu'anesthésiste, donc supposé savoir prescrire la morphine. Et je précise bien qu'aucun rapport avec ce qu'on travaillait, surtout à cette époque-là, et l'utilisation de la morphine en anesthésie même en post-anesthésie.
Oui, oui.
Voilà.
Alors là, on vous parle d'un temps, hein, comme dirait Aznavour, que les gens de moins de 20 ans ne connaissaient pas. Toutes les notions thérapeutiques d'algologie, de prise en charge de la douleur, tout ça, n'existaient pas. Et les morphiniques, on ne les utilisait pas. Les médecins avaient des carnets en souche en ville pour prescrire, et quand ils prescrivaient trop, eh ben, ils étaient convoqués par l'ordre en disant « Mais qu'est-ce que vous faites vous ?» Donc c'était quand même...
Pour la population, quand les gens, notamment quand, dans les fins de vie, quand on mettait sous morphine, on considérait que c'était pour accélérer.
Voilà, on considérait de mettre un patient sous morphine une euthanasie, alors que c'était complètement fou. Quoi.
En fin de vie. Bon, après, en post-opératoire, on utilisait quand même aussi des morphiniques.
Non, mais les morphiniques, vous les utilisiez, mais anesthésie, mais peu à domicile.
En post-opératoire aussi, mais pas avec la même fréquence ou la même. Pas aussi bien que maintenant, je pense.
Bien, donc c'est passé chez dans le domaine de l'anesthésie. Et à ce moment-là, quelle forme ça a pris?
Alors, ça a pris une forme plus consultation individuelle. Il y a eu un petit temps où je consultais notamment avec le docteur Jean-Gabriel Béchier, qui était généraliste et qui avait une formation. Et puis, progressivement, ben, on était chacun en consultation et on envoyait à la psychiatre, à l'algologue, à la sophro, en rééducation, en fonction des problématiques.
Voilà, alors, évidemment, moi, j'ai participé à cette évolution, donc je donne mon témoignage. Le service de Jean Boussy Acupuncture, donc la consultation n'existait pas, et s'est créé sous l'égide du service d'anesthésie globale de l'hôpital, puisque l'anesthésie était globale à l'hôpital Rioche. Un service à part entière, donc c'est un couloir avec des salles, hein. Et donc là c'était le centre antidouleur. C'est là où Georgette était la chef,
la patronne. J'étais responsable de l'unité.
Responsable, oui. Voilà. Donc là ça avait changé. C'est-à-dire qu'il y avait une consultation pluridisciplinaire où il y avait notamment un neurochirurgien qui était Jean-Gabriel Laborde qui venait et qui, donc c'était une fois par mois, je crois.
Oui, enfin,
ouais, voilà.
C'était
pluridisciplinaire. Mmh. Les cas un peu difficiles, etc., on les recevait. Et puis, chacun, en fait, avait sa consultation. Des anesthésistes faisaient l'anesthésie.
Les psychologues... Il y avait peu d'anesthésistes en dehors.
Les algologues,
en dehors du docteur Viel et moi, il n'y avait pas d'autres anesthésistes rattachés au centre de la douleur.
Moi,
il y avait des psychiatres, il y avait des consultations,
de
consultations à toi. Il y a eu d'autres consultations, d'autres algologues, comme le docteur Ramus qui venait d'Arles, Ramos plutôt, comme d'autres qui sont rattachés, et il y a eu aussi des neurochirurgiens, des La neurologue, madame, le docteur Campello.
Campello qui est venu, oui. Ouais.
Voilà, selon la disponibilité.
Donc là, ça avait changé de la pluridisciplinarité où il y avait 6, 7, 8 ou 3 médecins
face
en face.
Face aux malades.
Face aux malades, là, c'était plutôt individuel. Bon, avant cette période où le centre antidouleur s'est structuré dans un service de consultation, il y a eu une période de latence. Hein, où en fait le centre existait, mais on avait les consultations dans différents lieux. Donc je me rappelle, parce que moi j'allais, c'était le début où j'allais à Carrémont, c'était au rez-de-chaussée, j'allais deux fois par semaine, le matin, où j'avais une consultation d'algologie où je voyais des patients douloureux, toujours ma consultation de sophrologie. Et toi, tu allais en cancérologie.
En cancérologie.
Tu avais des consultations. Enfin, c'était un peu. Pendant quelques années, ça a été un peu. Il n'y avait pas de lieu. Et puis hop, il y a eu ce.
À partir de 90.
Voilà, ce lieu-là où vraiment c'était une identité
localisée.
Bien localisée, avec un secrétariat, des infirmières spécialisées. Oui. Voilà. Là, ça vraiment, c'était un centre antidouleur.
Voilà.
Bon. Et après ça, il y a eu le grand déménagement à Carrémont, où cette structure bien centralisée a pris sa place à Carrémont, et où tu étais toujours la patronne.
J'étais encore responsable de l'unité.
Elle n'aime pas que je dise la patronne, donc c'est pour ça que je fais la patronne.
Voilà, jusqu'en 2004, voilà. Où la responsabilité est passée au docteur Viel, sous l'égide du docteur Éric Viel. Et en 2008, j'ai pris ma retraite un peu anticipé pour la plupart des médecins, mais qui m'a permis à moi de mieux vivre.
Voilà, alors c'est là, on va un peu parler un peu de toi. Je pense qu'on reviendra sur des spécificités de la prise en charge, parce que Georgette est quand même une pionnière en prise en charge de la douleur. Elle a formé beaucoup de gens, elle a fait beaucoup de soins palliatifs, elle fait beaucoup de choses, elle veut pas qu'on en parle, mais je vous donne une petite, parce qu'elle voudra pas qu'on le lise, donc je vais le dire évidemment pour bien l'embêter, mais que vous soyez au courant. On lui a proposé, quand le diplôme de soins palliatifs a été mis en place à Montpellier, on lui a dit, mais tu as donné des cours, elle a dit non. Elle a dit, ben si tu donnes des cours, tu fais du soin palliatif tous les jours. Elle faisait du soin palliatif, hein, puisqu'elle a inventé le soin palliatif. Elle a dit non, moi je peux pas faire des cours à des gens sans avoir le diplôme. Donc elle s'est inscrite au diplôme de soins palliatifs, elle a passé le diplôme de soins palliatifs pour pouvoir faire des cours, donc il faut quand même le dire. Donc c'est pour que vous connaissiez la personnalité de Georgette, et vous comprendrez beaucoup mieux mon attachement à Georgette Drossin, qui pour moi m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté. C'était vraiment une grande joie de travailler avec elle. Elle était toujours très très positive. Alors je me rappelle que tu étais une jeune maman à l'époque, hein, mais alors on revient plutôt vers le temps de Bossier, que tu t'occupais de ton fils. Alors comment faisais-tu pour pratiquer l'anesthésie? C'est quand même pas rien, hein. Je crois que tu l'étais chez Gérard Duperron, qui malheureusement nous a quittés, hein, qui est un ophtalmologue, qui était un garçon extraordinaire. J'ai eu la chance qu'il me considérait comme son ami, donc nous avions beaucoup échangé parce qu'il était passionné par la sophrologie, par l'accompagnement des souffrances autres. Il pensait que la sophrologie était très importante et c'était une grande peine pour moi qu'il nous ait quittés. Nous avons une pensée pour lui, bien évidemment, sa famille, qui était ancienne donc médecin chef de l'Institut Arama Vanim, ancien chef de service d'ophtalmologie au CHU de Carrémont. Alors le professeur Duperron, que je comptais parmi mes amis, a eu une grande carrière. Donc tu travaillais chez lui comme anesthésiste en ophtalmologie, mais c'est pareil que si tu étais en viscéral. Comment tu faisais pour t'organiser dans ta vie familiale et ta vie professionnelle, qui était très riche, parce qu'elle enseignait formation médicale continue, etc.
Non, mais là, tu mélanges les périodes. Quand j'étais en ophtalmologie, c'était le début où je m'intéressais et où je me formais sur la douleur. Il n'y avait pas tant d'activités sur la douleur que ça, à ce moment-là. Après, quand j'ai été responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, là, j'ai arrêté assez rapidement l'anesthésie au quotidien. J'ai quelque temps gardé des gardes parce que...
Oui, mais elle gardait des gardes, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Elle travaillait pas, mais elle prenait des gardes d'anesthésie. Une garde d'anesthésie, je peux dire que c'est pas n'importe quoi, quoi.
Puis un jour, j'ai réalisé que j'étais un peu dépassée et que la plupart des connaissances ou des préparations étaient faites par les infirmières. Je me suis dit qu'il fallait mieux que je reste dans mon coin.
Mais, ouais, mais c'est excellent ce que tu viens de dire, parce que ça illustre ce que je dis. Donc, elle ne faisait rien, mais c'était la patronne du centre antidouleur. Elle avait une famille qu'elle gérait.
Vous avez trois enfants, quand
voilà,
même.
Trois enfants. Moi, je parlais de son fils, parce que quand elle était chez Bossy, comme on dit, elle a été, je me rappelle de cette période, mais elle avait quand même trois enfants,
deux
une famille.
Filles,
on a créé une association de sophrologie de Nîmes, dont elle était active, parce que le lundi, tous les mois ou tous les 15 jours, voilà, on faisait des réunions. Elle était dans le quartier, route d'Uzès, où elle était très active. Chaque fois que quelqu'un avait besoin de Georgette, eh bien, Georgette venait. Donc, c'est intéressant, parce que vous voyez que j'ai raison. Ben, elle ne veut pas parler d'elle, alors qu'elle a fait beaucoup de choses. C'est un peu ce que je voulais te provoquer.
Oui, ben, je pense que je ne suis pas la seule. Et que...
Ah non, mais
je
n'ai pas dit que tu étais la seule. Mais ce
donc,
qui est intéressant, c'est que tu l'as fait.
Voilà. Bon... J'ai pu mener ça de front aussi, parce que quand même, j'avais l'aide de mon mari, qui lui prenait pas autant de garde, donc...
Alors, ton mari avait une spécialité ?
Alors, mon mari était en médecine nucléaire, hein, et puis il a fait une formation de santé publique, donc il était parti sur Montpellier, et à Montpellier, il a intégré le centre antidouleur,
voilà,
avec un décalage sur moi, mais voilà.
Et alors, actuellement, tes occupations, c'est quoi ?
Oh, un peu moi.
Un peu de radio, tu t'occupes de toi, tu profites
la radio,
de ta retraite.
C'est bien la première fois. Un peu moi, mais justement, je profite de ma retraite, je marche, je fais de la gym, je vais au cinéma, je vois mes petits-enfants, un peu moins maintenant puisqu'ils sont ados, mais c'était, voilà.
Bon, mais c'est très bien, une vie paisible et heureuse de retraité.
Exactement.
Mais,
comme toute vie de retraité.
Avec beaucoup d'activités.
Un agenda qui est presque plus plein.
Mais on aura l'occasion de réinviter Georgette Dorsin pour parler de choses plus spécifiques. Mais là, c'était pour que vous la connaissiez et surtout que vous preniez connaissance de cette personnalité si attachante. Et mes chers Georgette, merci de ta présence et de tout ce que tu nous as appris. Merci infiniment à toi. Ce n'est qu'un au revoir, hein, comme je dis, car je suis certain que nous pourrons réaliser d'autres émissions sur la douleur et notamment sur la période où tu étais patron du centre antidouleur à Nîmes, plus spécifiquement avec, en rentrant dans le dur et leur organisation. Merci encore à toi et permets-moi de t'embrasser pour tout ce que tu as fait pour les patients. J'en suis témoin, tu as beaucoup fait par ton attention et ton altruisme qui bénit en permanence ta gentillesse.
Bon, pas trop.
Elle n'aime pas, c'est pour ça. Mais tout ce que je vous dis, peux vous assurer que c'est vrai, je l'ai constaté et surtout, bon, je l'ai vécu. Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Est-ce que tu as un livre qui t'intéresse ?
Ah, j'en ai, mais je ne les ai pas tous.
On n'a pas beaucoup de temps. Donne-nous un titre, alors.
Un titre ? Ah ben, un titre très particulier, c'est les... comment ça s'appelle ? Où je l'ai mis celui-là ? C'est les cellules buissonnières, qui est un titre, livre.
C'est qui l'a écrit ?
Alors, c'est une journaliste médicale qui s'appelle Lise Barnehout.
Et l'édition, tu le sais ?
Non, bon, mais vous trouverez. Bon. Le sous-titre est original, c'est l'enfant dont la mère n'est jamais née.
Bon, mais merci à toi, Georgette, et merci pour ce conseil de lecture. Alors, je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel, et Camille qui nous accompagne aujourd'hui. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.